D'abord, je voulais vous dire que ce que je viens de vous distribuer, ce n'est pas tout à fait un handout, c'est en fait la copie de la présentation. Donc, vous verrez tout ça. Tout simplement, je pensais que peut-être certains d'entre vous, vous voudrez avoir une copie de cette présentation. Je commençais par dire que l'histoire de l'enseignement du français en Russie a sans doute intéressé peu les historiens de la culture russe, et on a l'impression que c'est parce qu'on y voyait un sujet d'étude plus que secondaire. Alors, en partie, cet abandon de ce domaine vient de l'image des éducateurs et des enseignants français. Comme vous savez, elle était très négative au XVIIIe siècle, et d'ailleurs au début du XIXe aussi. Bon, à lire les mémorialistes de cette époque, on pourrait penser que tous ces Français étaient des aventuriers, des forçats, des femmes de mœurs légères, etc. Et l'évidente contradiction entre cette image généralisée et le niveau d'éducation, ne serait-ce que linguistique, de la grande noblesse russe, ne posait pas forcément problème. Aujourd'hui, l'histoire de l'enseignement du français se développe de plus en plus en Europe en tant que discipline. Pour le siècle des Lumières, on trouve des études pour plusieurs aires culturelles, et l'essentiel des informations est puisé des supports didactiques, c'est-à-dire des manuels qui étaient utilisés à cette époque et qu'on trouve encore dans différentes bibliothèques. Donc, cette source est très précieuse, évidemment, et donne beaucoup d'informations sur les méthodes, bien évidemment, sur les enseignants eux-mêmes, quelquefois aussi sur les élèves, parce qu'il y a des dédicaces. Mais finalement, donc, le nombre de questions auxquelles répondent ces méthodes, ces manuels, est quand même limité. La recherche archivistique pour un sujet comme celui-là est en revanche laborieuse, surtout s'il s'agit de l'enseignement privé, car toutes les familles ne conservaient pas pieusement les documents qui concernaient l'éducation de leurs enfants. Ingrid Schirler, de l'Institut historique allemand de Moscou, qui dirige un projet de recherche sur l'histoire de la noblesse provinciale en Russie au XVIIIe siècle, a partagé ses impressions récemment à Édimbourg. On l'a vu il y a quelques jours à peine, et en disant que sa grande déception devant une relative pauvreté des fonds privés des deux régions sur lesquelles porte cette étude, les régions d'Aryol et de Tula. Mais heureusement, beaucoup de grandes familles conservaient tout ce qui concernait leur progéniture, et les fonds de certains établissements éducatifs se sont aussi fort heureusement conservés et sont riches en documents. Bon, je ne vais pas brosser tout le tableau de l'enseignement du français à cette époque, parce que c'est de toute façon impossible de faire en 20 minutes. Et je vous rassure, donc, il n'y aura pas que des ombres, donc il y aura aussi quelques lumières, quelques rayons de soleil dans ma communication. Je commencerai par parler de ces commissions d'attestation des précepteurs qui ont été établies en Russie en 1757, donc pour être sûr que l'enseignement qui était donné dans le secteur privé était de bonne qualité. Donc, ces commissions ont laissé pas mal de documents, particulièrement dans les archives de l'Académie des sciences. Alors, ces documents peignent un tableau très contrasté. Les enseignants du français sont de tous bords, loin d'être seulement français, donc il y a beaucoup d'allemands. Parmi les français, plusieurs écrivent des lettres dans un style tellement fleuri qu'on ne peut le reconnaître qu'à un certain niveau d'études. Mais à côté de cela, il y a aussi des précepteurs quasiment analphabètes. Alors, je donnerai que deux exemples. Donc, l'attestation donnée à un certain Jean Baudouin, qui se termine par cette phrase: on trouvera rarement quelqu'un qui ait les mêmes connaissances parmi les Français qui sont présents ici. Donc, la phrase qui en elle-même dit en fait quel est le niveau général des Français qui sont présents à cette époque. Et vous voyez la signature autographe d'un précepteur qui reçoit son attestation. Vous voyez, je reçus l'attestat, etc. Donc, qui montre que ces précepteurs apparemment n'a pas l'habitude souvent d'écrire dans sa langue. Je donnerai aussi quelques autres exemples, mais je ne m'attarderai pas là-dessus parce que ces exemples, on pourrait les multiplier à l'infini. Louis Pontet, français né à Berlin, enseigne avec sa femme aussi française. Mais on devine qu'il ignore tout de la grammaire française parce que l'attestation qu'il a reçue dit: Si quelqu'un est content de la seule pratique de la langue, comme les jeunes enfants qui apprennent plus par la pratique que par les règles, alors Ponté peut leur convenir. Et Ponté sera plus tard enseignant au corps des cadets nobles, donc ce qui aussi nous en dit long sur la sélection des enseignants dans certains établissements publics à cette époque. On peut lire à peu près la même chose dans beaucoup d'autres attestations. Alors même quand l'attestation est très positive, par exemple celle de Zacharie Piget de la Rivière, qui a impressionné la commission, il parle très bien le français, il écrit aussi très bien, mais la commission l'atteste tout de même seulement à enseigner les fondements de cette langue. Quelquefois, les employeurs de ces enseignants leur fournissaient préalablement des attestations en confirmant qu'ils ne leur demandaient pas du tout l'enseignement de la grammaire. Tout ce qu'ils demandaient, c'est vraiment la conversation et c'est tout. Ça s'arrête là. Alors, quelques mots aussi sur l'enseignement dans les pensionnats. En 1784, plusieurs pensionnats de Saint-Pétersbourg sont inspectés. Alors, chez M. Baumann, par exemple, qui est probablement allemand, l'enseignement est organisé de cette façon. D'abord, un professeur français enseigne à lire, puis M. Baumann donne de petites phrases à traduire et il utilise la grammaire des dames. Donc, quand même, il y a une grammaire qui est utilisée. Alors, les études des dames sont utilisées chez l'anglaise Madame Koch. Dans le pensionnat de l'allemand Reinking, le professeur de français est, selon la commission, incapable d'enseigner cette langue. Dans le pensionnat de Link, qui était plutôt maître d'escrime au corps des cadets nobles, le maître de pension enseigne à lire et à écrire en français, mais il reconnaît lui-même ne pas avoir suffisamment de connaissances en grammaire. Et il se limite à dicter aux élèves des passages de la grammaire de Restaud, une des célèbres grammaires utilisées partout à cette époque, partout en Europe. Donc on voit que beaucoup d'enseignants, aussi bien dans les maisons, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire dans le secteur privé, que dans les pensionnats, ne connaissent pas la grammaire. Parfois, quand ils l'utilisent, c'est pour en dicter quelques passages. Le moyen d'apprentissage privilégié semble être la traduction, sauf que plusieurs enseignants français ne peuvent pas utiliser ce moyen parce qu'ils ne connaissent que le français, donc aucune autre langue. Donc, évidemment, c'est un problème. Et vous voyez que l'image générale, on pourrait dire, n'est pas très réjouissante. Mais elle est, je pense, très différente quand on commence à parler de la grande noblesse, en fait, de l'aristocratie. Parce que l'aristocratie, à cette époque, les moyens pour chercher de très bons enseignants, quelquefois soit en les recherchant à l'étranger, soit en prenant les meilleurs enseignants qui se présentent, par exemple, à l'Académie des sciences pour être attestés. Donc, j'ai l'impression que Kirill Razumovsky, qui était à cette époque président de l'Académie des sciences, vraiment, chaque fois qu'il y avait un candidat talentueux, il le mettait dans une famille, dans une des familles qu'il connaissait, des familles de la grande noblesse. Mais il y a aussi quelques problèmes, quelques questions que soulèvent certains documents. Alors je vais montrer cette correspondance qui donc a été menée pendant l'année 1780 par Madame Olivier, qui est gouvernante donc de la princesse Catherine Golitsyn, qui est la fille de Natalia Petrovna Golitsyna, donc la célèbre dame de pique. Et vous voyez donc dans sa correspondance en rouge tous les mots qui sont écrits incorrectement. Donc vous voyez quand même, et je vous assure que je n'ai pas fait une sélection exprès pour cela, toute sa correspondance est à peu près du même acabit. Donc beaucoup de fautes d'orthographe, quelques fautes de grammaire aussi. Donc on peut se poser la question, mais alors comment est-ce que une gouvernante comme celle-ci, qui était chargée de l'enseignement du français, a formé un élève qui apparemment après a écrit dans un français absolument impeccable? Ça, c'est une très bonne question. Alors, en parlant de l'apprentissage du français à cette époque, on doit garder à l'esprit deux choses. D'une part, son caractère très pratique et d'autre part, son caractère englobant. Je vais essayer de m'expliquer. Alors, beaucoup d'exercices, particulièrement les exercices de traduction qui étaient très fréquents à cette époque, étaient axés sur l'étude et la réutilisation des formules de politesse et des clichés utiles aussi bien dans la correspondance amicale que dans la conversation de salon. Alors, Bon, je vais peut-être, excusez-moi, je vais peut-être d'abord montrer cet exemple-là. Alors, c'est une traduction qui a été faite au Noble Corps des Cadets, qui a été faite par Alexandre Soumarokov, qui étudiait au Corps des Cadets Nobles. Donc, cette traduction qui a été faite d'ailleurs non pas du russe, mais de l'allemand. Souvent, cette traduction se pratiquait. Donc la combinaison était allemand-français. Et vous voyez que la lettre est à peu près vide, comment dire, de sens concret, mais par contre elle est bourrée d'expressions qui sont utiles pour la correspondance, qui donnent en fait certaines règles du comportement dans la bonne société, etc. Alors ces textes, l'étude du français débordait aussi les cours de langue proprement dit. On apprenait le français non seulement en cours de français, mais aussi lors de beaucoup d'autres disciplines, car les maîtres étaient souvent aussi francophones. Donc souvent d'autres disciplines étaient données en français. Et pour vous donner juste un exemple, ce cahier d'élèves que j'ai retrouvé à Moscou, qui apparemment a été dicté par un enseignant français à son élève, a été dicté, vous voyez, en français, et qui porte sur l'histoire russe. Apparemment, donc, c'est un cahier de la fin du XVIIIe siècle. D'après l'écriture, c'est une écriture de l'élève, il y a quelques corrections qui ont été faites par une autre écriture, apparemment l'écriture du professeur. Donc qui corrige certaines phrases, et donc c'est à la fois évidemment un exercice en histoire russe, mais aussi un exercice en français, bien entendu. Et bon, je n'insiste pas sur d'autres activités extrascolaires, pour ainsi dire, comme les spectacles de la troupe française, comme la lecture, comme les conversations, etc. Maintenant que nous avons vu à peu près comment les choses se passaient dans l'enseignement privé, je vous propose de jeter un regard sur l'enseignement du français dans le plus grand établissement public pour les enfants nobles de l'Empire, c'est-à-dire le corps des cadets nobles de l'armée de terre. Alors, les archives de cette institution se sont très bien conservées pour une bonne partie du XVIIIe siècle. Je ne vais pas parler des enseignants parce que je n'aurai pas le temps de le faire. Je vous propose d'abord de regarder qui étudiait au corps des cadets nobles à cette époque. Alors, j'ai retrouvé un document de l'année 1764 qui vous montre le nombre d'élèves. Qui vous montre le niveau matériel des familles des élèves du corps des cadets nobles. Donc, il y a évidemment la noblesse balte qui est bien représentée, pour laquelle il n'y a pas forcément, donc il n'y a pas de données pour les serfs, bon, pour la raison évidente. Peut-être je vais vous montrer cet autre tableau qui est un peu plus clair, qui donne les chiffres uniquement pour les élèves russes qui viennent de familles russophones. Et donc vous voyez que la plupart des élèves, c'est-à-dire 13 plus 53%, viennent des familles relativement pauvres. Alexis m'a dit qu'il ne faut pas que j'utilise le terme de la petite noblesse, donc je ne vais pas utiliser le terme de la petite noblesse. Mais en tout cas, la noblesse la plus pauvre, sans doute. Donc ça nous donne déjà une certaine idée, ne serait-ce que pour l'année 1764. Alors maintenant, quelle langue enseignait-on et quelle langue étudiait-on et combien d'élèves cette indication sur les appréciations, parce que c'est quand même très important. Donc c'est à peu près sous cette forme-là qu'on les voit. Donc vous voyez Alexandre Soumarokov, il traduit de l'allemand en français bien. Pour le style allemand, il compose assez bien, écrit très bien. Donc il y a le style, il y a l'écriture. Quelquefois on parle de l'orthographe, mais le niveau qui est le plus élevé, c'est évidemment le style, style, comme on disait à cette époque, pour ce qu'on a vu tout à l'heure pour les séminaires, indique un niveau d'un élève qui est capable de composer des textes d'une certaine complexité dans cette langue. Maintenant, donc, combien d'élèves étudiaient telle ou telle langue? Vous voyez, pour le tout début de l'existence du corps des cadets, tout le monde apprend l'allemand. La plupart apprennent le français. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure que les chiffres ne coïncident pas tout à fait avec ceux qui étaient donnés dans la communication de Christine Darmen, parce qu'elle indique que 40 personnes seulement parmi les Russes qui apprennent le français à cette époque. Donc moi, j'en ai vu 65. Donc vous voyez qu'il y a une certaine disproportion entre les Russes et les non-Russes, qui sont essentiellement des Allemands baltes. Et vous voyez aussi le désintérêt, mais vraiment patent, pour le latin. Presque personne n'apprend le latin. Il faut dire qu'à cette époque, comme d'ailleurs plus tard, les élèves peuvent choisir les langues qu'ils veulent apprendre. Donc ça, c'est quand même très important de le comprendre. Les données pour l'année 1748, vous voyez que toujours, presque tout le monde apprend l'allemand. Et très bizarrement, le nombre de Russes qui apprennent le français chute. Donc 38%, à peine plus d'un tiers, apprennent le français. Alors, donc, quelle est l'explication de ce phénomène? Au beau milieu du siècle des Lumières, très peu de Russes, et surtout bien moins qu'au tout début de l'existence du corps. Alors, il y a une explication que j'ai trouvée dans un document qui a été remis par le directeur du corps des cadets. C'est von Fontetao qui écrit à l'impératrice en 1739, et il donc remarque que les cadets ne connaissent pas l'allemand avant leur entrée au corps des cadets. Or, à cette époque, il n'y a pratiquement pas de professeurs de français connaissant le russe. Et les langues, y compris le français, sont enseignées essentiellement à travers la traduction. Donc, avant de se mettre français, ils sont obligés d'apprendre l'allemand. Donc, il n'y a pratiquement pas d'autres voies. Donc, d'abord, ils apprennent l'allemand, après, ils se mettent au français. Forcément, ça limite beaucoup les capacités des élèves russes. En revanche, c'est bien plus facile pour les Allemands baltes qui maîtrisent déjà l'allemand. Je passe maintenant donc aux chiffres pour l'année 1764. Vous voyez que là, le nombre des élèves qui apprennent le français est plus important. Donc il y a plus de 50% parmi les Russes qui apprennent, qui apprennent le français. Pratiquement les 100% des Baltes apprennent le français. Alors à cette époque, bon, déjà on peut dire qu'apparemment l'image est plus réjouissante, donc on peut être plus enthousiaste. Il y a d'ailleurs aussi plusieurs Russes qui apprennent le latin. Vous voyez qu'il y a deux nouvelles matières qui apparaissent, c'est l'enseignement de l'histoire en français et de la géographie en français, d'ailleurs qui n'existe pas en allemand. Uniquement en français, mais le nombre d'élèves qui apprennent l'histoire et la géographie en français, bon, est quand même n'est pas très important. Alors donc, on peut se réjouir évidemment qu'il y a un certain progrès, mais on va déchanter quand on regarde plus attentivement les chiffres, notamment quand on regarde quels sont les aspects qui sont étudiés par tel ou tel élève. Et donc là, bon, ça devient un petit peu compliqué, mais vous pouvez voir donc les compositions, par exemple pour la traduction, qui est une matière très très importante. Vous voyez donc quelles sont les compositions. La plupart des Russes déjà apprennent la traduction du russe vers le français. Donc apparemment, à cette époque, il y a des professeurs qui sont capables de le faire au corps des cadets. Donc ce qui forcément a permis au plus grand nombre de Russes d'apprendre le français. Alors, mais vous voyez que seulement 8 élèves arrivent au style sur 120 élèves russes. Alors là, toute cette sélection, enfin ce n'est pas une sélection, ces 120 élèves, ce sont les élèves qui terminent le corps des cadets. Donc c'est vraiment les élèves en fin d'études. Donc ça nous montre quand même à quel niveau arrivent les élèves russophones. Donc, vous voyez qu'une toute petite proportion arrive à un niveau de maîtrise, bon, à peu près correcte de cette langue. Donc, j'en arrive maintenant à ma conclusion. D'abord, dans l'enseignement privé, il y a un nombre important de précepteurs qui ne maîtrisent pas la grammaire. Mais pour beaucoup, ce n'est pas un handicap, comme on a vu, car leurs employeurs, venant, je pense, de la couche la plus pauvre ou la moins riche de la noblesse, ne leur demandent que l'enseignement pratique du français, uniquement à la conversation. Dans le milieu de la grande noblesse, la situation est bien différente, car la sélection est plus rigoureuse. Les manuels bien connus de Peplier, de Resto, dont va parler tout à l'heure Sergueï Vlassov, sont de plus en plus utilisés, parfois en version traduite et adaptée aux réalités russes. Ces manuels sont utilisés dans les établissements éducatifs publics et dans certains pensionnats, mais on a vu que dans certains pensionnats, ils ne servent qu'à faire des dictées. Généralement, la forme par question-réponse se répand, non seulement pour l'enseignement de la grammaire de la langue, mais aussi dans l'enseignement d'autres disciplines, comme on a vu tout à l'heure pour l'histoire, par exemple. L'une des méthodes les plus utilisées, y compris pour le corps des cadets nobles, est la traduction, sauf que la langue de départ, souvent, n'est pas le russe, mais l'allemand, à cause des particularités de la composition du corps professoral, et ceci met bien entendu un frein sérieux à l'apprentissage du français dans le milieu russophone. Mais il serait erroné de penser que c'est la seule barrière devant le désir des Russes d'apprendre la langue de l'Europe, car nous avons vu qu'en 1764, donc cette barrière n'existe plus, on peut apprendre le français en combinaison avec le russe, le chiffre n'est toujours pas très important. Donc, je pense que les classes de français donc, ne sont pas très remplies, sans doute parce que cette population, qui donc, vient de la couche la moins riche de la noblesse russe, n'est pas encore touchée véritablement par le phénomène de la francophonie, et il y a toujours un certain conservatisme dans ce milieu. Voilà, je vous remercie.